une histoire. Un magazine sur le soir du Congo. Révivez les événements importants et historiques du Congo. Découvrez le personnage et acteur de notre histoire ainsi que leur rôle. Un jour une histoire, c'est l'histoire récente et passée du Congo. Retrouvez toute l'équipe tous les dimanches à 8h30, heure de Kinshasa. En rediffusion le dimanche à 8h30 et 20h30. Le mercredi à 14h15.
Bien, comment lutter contre la corruption dans l'administration publique? La corruption a atteint des proportions inquiétantes dans l'administration publique en République démocratique du Congo. D'après nos sources, certains fonctionnaires véreux se distinguent dans le monnayage et dans les trafics des documents administratifs à des prix exorbitants. Ils rendent complexes certaines procédures afin d'en tirer des pots de vin. Alors quels sont les méfaits de la corruption érigée en système depuis des années dans l'administration publique? Vous avez des questions et préoccupations par rapport à cette thématique? Appelez au 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Dans ce plateau, nous recevons aujourd'hui le professeur Félicien Mundai. Il est professeur d'éthique, expert en éthique et bioéthique. Professeur, qu'est-ce que cela veut dire exactement?
Les termes bioéthique, vous voulez dire?
Bioéthique, voilà.
Même l'éthique aussi, on peut expliquer.
C'est voilà, allez-y, il n'y a pas de problème.
Ok, merci beaucoup pour la parole et le temps que vous m'accordez là. Commençons par définir simplement l'éthique. Vous entendez partout les gens se plaindre. Et en se plaignant, ils disent, mais ce n'est pas éthique. Ou maintenant, de façon plus courante, on entend tout le monde dire, mais écoutez, il faut instaurer une lutte contre les antivaleurs. Mais écoutez, il faut combattre les antivaleurs, ainsi de suite. Ces matières-là, la valeur des antivaleurs, ces matières-là appartiennent à un domaine scientifique, une discipline universitaire connue qu'on appelle éthique. L'éthique est une discipline qui appartient à la philosophie, et dans cette discipline-là, on s'intéresse à examiner les actes que nous posons, les comportements que nous posons. Mais la dimension éthique est particulière dans la mesure où l'éthicien, face au comportement, examine les principes et les valeurs rattachées au comportement ou aux actes à examiner. Voilà. Donc c'est une réflexion, si vous voulez simplement dire, sur les actes que nous posons. Et sur ces actes-là, l'éthique va se focaliser sur la valeur de l'acte.
De l'acte à poser.
Alors maintenant, vous comprenez, quand on dit antivaleur, signifie qu'on constate que les actes que nous posons ne vont pas vers la valeur primaire, reconnue, rattachée, vers sur cet acte-là. Voilà. Donc ça, c'est l'éthique. Donc c'est le domaine vraiment des éthiciens à s'en occuper. Et vous comprenez maintenant, quand on dit, quand on se plaint partout, à partir du sommet de l'État, qu'il faut lutter contre
la oui, la donc, corruption particulièrement.
Voilà. Et là, c'est un cas donc d'une antivaleur. On appelle antivaleur. Et d'ailleurs, pour mieux comprendre, qu'est-ce qu'une valeur? Parce que c'est plus simple. Les gens parlent d'antivaleur, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'une valeur?
Mais c'est quoi la valeur?
Voilà. Une valeur, c'est ce que nous visons quand nous accomplissons un acte quelconque. Quand, par exemple, je dis, je vais étudier. Étudier, c'est un acte. Au bout, vous visez quoi? Vous visez la réussite. Vous visez obtenir votre diplôme. Vous visez le travail. Vous visez l'argent. N'est-ce pas? Votre salaire. Donc, l'argent, c'est une valeur importante. La réussite, c'est une valeur importante dans la vie. Le travail, c'est une valeur importante. Un autre exemple pour mieux comprendre la valeur, quand nous posons, par exemple, un acte hétérosexuel, nous visons des valeurs, plusieurs valeurs, et dans différents contextes. Par exemple, on peut viser le plaisir sexuel. C'est une valeur importante. On peut viser la procréation. L'enfant, c'est une valeur importante.
D'accord. Et, alors, comment expliquez-vous la corruption maintenant, professeur?
Voilà.
C'est quoi la corruption?
Mais simplement dit, dans le même sens-là, quand vous avez un agent de l'État qui a comme mission, en fonction des statuts de son service, en fonction du travail qu'il a maîtrisé, qu'il sait faire, par exemple un comptable, on lui dit, vous, votre rôle, votre travail, c'est de percevoir l'argent et de le verser dans la caisse de l'État. Voilà. Mais maintenant, la corruption, c'est quoi ce mot-là? La corruption intervient dès que quelqu'un vient vous empêcher de prendre, de percevoir cet argent et de le verser dans la caisse. Donc, c'est une déviation vers la valeur, vers la visée essentielle de l'acte que vous accomplissez. Et on peut aller, on peut citer plus exact. Par exemple, délivrer un certificat, c'est un acte opposé. Mais vous savez quelles sont les conditions à remplir pour que vous puissiez signer.
Par exemple, le certificat de, c'est pas un acte de naissance ou le certificat.
Exactement ça.
Voilà.
Et là, par exemple, on dit, écoutez, pour, avant que le chef du bureau.
Attestation de naissance au service de l'état civil, par exemple.
Voilà. Donc là, on dit, moi, je suis chef de division, je dois signer, avant de signer, la déontologie ou ma profession ou le statut m'exige des personnes, par exemple, 100 francs. Quelqu'un dit, mais écoutez, pourquoi vous demandez 100 francs? Mais demandez un peu plus. Et par rapport au tas de dossiers que vous avez fait sur votre bureau, il vous dit, non, 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 moi je suis pressé, écoutez, moi je vous donne 200 francs ou 300 francs. Donc on vous dévie de votre comportement à tenir pour atteindre l'acte que l'État vous a assigné, et moyennant de l'argent. C'est cela la corruption. Donc on vous détourne, il y a une déviation. Cette déviation n'est pas gratuite.
Et on veut avoir des avantages indus.
Voilà, des avantages indus. Voilà. C'est cela. Alors,
alors, d'après vous, qu'est-ce qui favorise, qui a favorisé la corruption dans l'administration publique, la corruption qu'elle on déplore aujourd'hui?
Oui, au point de vue de l'éthique, pour y arriver, nous analysons les faits. On peut se demander simplement, mais quand on dit agent de l'État, c'est-à-dire que vous avez été engagé par quelqu'un, votre employeur, votre chef, c'est lui qui vous donne le travail à exécuter en se référant au statut mis en place et que vous devez signer, en se référant à d'autres textes réglementaires déontologiques que vous devez donc respecter. Dès lors que l'employeur ne vous permet pas ou n'applique pas lui-même les statuts, donc la réglementation que vous devez suivre tous, il y a donc déviation, ça commence par là.
Donc, mais certains expliquent que c'est parce qu'ils ne sont pas payés, les salaires sont insignifiants, alors on trouve d'autres moyens pour trouver de l'argent.
Non, 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 ça c'est secondaire. C'est secondaire. Ce qui est fondamental, c'est le manque de volonté de la part des décideurs de se conformer scrupuleusement au consensus qui se trouve dans les statuts de l'emploi, de l'agent.
Parce qu'il y a des codes, un code de bonne conduite.
Exactement ça, c'est cela.
Qu'on doit respecter.
Voilà. Donc, pour nous, au point de vue de l'éthique, nous disons, si quelqu'un dit, écoutez, je manque d'argent, c'est la pauvreté. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est secondaire. Ça, c'est les conséquences qu'on subit. La pauvreté est une conséquence de manque, par exemple, d'assez d'argent pour vivre. Mais cette privation est quelque part, à quelque part, une source. Et pour nous, disons que ce sont les décideurs. Quand disons les décideurs, toute personne qui a une portion de pouvoir face à l'agent, dès que ces messieurs-là ne respectent pas les normes et les principes établis, eh bien ces messieurs-là est l'acteur principal, un des acteurs principaux du phénomène. On peut commencer par citer un, dans la société connue, tout ce qu'on appelle des chefs, mais ils sont des acteurs.
Dans la corruption.
Ah mais oui, je veux commencer par qui, par exemple, prenons un chef de bureau. Un chef de division, un directeur, un secrétaire général. On peut aller plus loin, les chefs d'État, président de la République, les ministres, les parlementaires, les magistrats, tout décideur, les PDG des entreprises, les DG des entreprises et les subalternes. Donc tous ceux qui ont une portion de décision, ce sont là, sont ceux-là, tous qui sont les acteurs de la corruption. Donc la corruption a forme d'embranchement. À plusieurs valeurs collatérales, si vous voulez, les antivaleurs, liées au mensonge, à la tricherie, à la fraude, n'est-ce pas, même à la témérité, même, ce qu'on peut dire, au manque de sentiments de honte, de ridicule, voyez.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour lutter efficacement contre la corruption qui a eu le temps de s'installer? Aujourd'hui, c'est devenu un mode de fonctionnement, un système.
Très bien.
Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour lutter efficacement contre cela, bon, professeur?
Merci beaucoup. À ce sujet, nous avons nous introduit un document auprès du chef de l'État, étant de la République, et nous avons proposé ce qu'il faut faire pour mettre fin, dans 2-3 ans, à ce phénomène.
Qu'est-ce que vous avez proposé?
Nous avons proposé ceci. Première chose, il faut mettre en place, à la présidence là, un programme national de lutte contre les antivaleurs. La corruption est parmi d'autres antivaleurs. Et pour cela, il y a le cheminement que nous avons mis en place. Mais concrètement, que faut-il faire? Mais il faut interpeller, il faut former à l'éthique tout décideur. Je dis bien tout décideur. Il faut le former à l'éthique. Ça signifie quoi? Il faut le former à l'esprit critique, à l'esprit analytique, à l'esprit humain, Yabomoto. Pour qu'ils comprennent les valeurs de leurs actes, parce qu'ils sont tous de mauvaise foi. Et l'éthique a l'avantage justement de s'adresser aux intellectuels, aux décideurs. Et nous avons proposé des méthodes. Pas dans notre pays, nous faisons face à un conflit de valeurs justement. Et en éthique, en bioéthique, nous avons des méthodes que nous avons proposées sur de l'État, qu'on doit appliquer pour y mettre fin. La première attitude qu'il faut avoir, c'est la volonté politique sincère, claire, nette et engagée et déterminée. Pourquoi cela? Mais aussi longtemps que on n'aura jamais une volonté politique en dehors de fantaisies, quelconque déclaration dans les médias, tout ça, aussi longtemps qu'ils n'ont pas une volonté claire, engagée, de mettre fin aux antivaleurs, eh bien, on va tourner en rond.
Donc, mais certains ont proposé qu'il faut commencer à arrêter les corrupteurs et les corrompus, les mettre en prison.
Non, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Hein. Mais d'abord, il faut exprimer la volonté. Est-ce que... Bon, vous avez donné un cas intéressant. Bon, il faut arrêter les corrompus, il faut arrêter... Mais qu'ils arrêtent. Et vous le voyez qu'ils parlent d'arrêter ces gens-là. La commission nous a fait des preuves, des limites, si nous disons. Mais aussi longtemps que les décideurs eux-mêmes sont corrompus, comment voulez-vous qu'ils sanctionnent les corrupteurs là?
D'accord, on va accueillir les auditeurs. Comment lutter efficacement contre la corruption dans l'administration publique? Jonas Kabinda nous appelle des Kananga, Germain et Tabutembo. Vous voulez également participer à cette émission, appelez-nous au 081 890 63 94.
Okapi Métissage fait le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, art plastique, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Okapi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Okapi.
Comment lutter efficacement contre la corruption dans l'administration publique? Jonas, vous êtes à Kananga, Germain nous appelle des Boutembo, Dieu merci est à Dungu. On commence avec vous, Jonas Kabinda, bonjour.
Bonjour, merci Joli. Bonjour monsieur le professeur qui est sur le plateau.
Bonjour. Et
bonjour, auditeur.
Quelle est votre question?
Oui, moi je pense que pour lutter efficacement contre la corruption, il faudrait commencer par la racine. Il faut d'abord savoir pourquoi la corruption existe dans notre pays. Bon, à mon sens, je pense que si nous voyons bien ce que les travailleurs congolais touchent comme salaire, que ce soit non seulement dans l'administration publique, mais dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de domaines, on dirait que les gens travaillent beaucoup pour mourir et ils gagnent trop peu pour vivre. Alors, comme il n'y a pas de salaire juste, de salaire décent pour le travail à bas, beaucoup de gens se laissent traîner dans la corruption. Et moi je dirais qu'il faut que le gouvernement en place commence d'abord par réajuster les salaires des fonctionnaires. Parce que si quelqu'un, par exemple, vous voyez quelqu'un qui a 50 000 et qui voit que quelqu'un vient lui donner $200, il va prendre cet argent-là.
Donc, d'accord, et donc exemple, vous proposez, alors, d'après vous, il faut commencer...
Oui. Et maintenant aussi,
oui.
La justice dans notre pays ne sait pas faire son travail. Mais comment se fait-il que quelqu'un va se plaindre pour la corruption? Les dossiers entre les magistrats. Mais le magistrat lui-même se fait corrompre et les dossiers lui sont. Donc, il faut aussi que la justice puisse sévèrement ceux qui s'adonnent à la corruption une fois qu'ils sont dénoncés. Et s'il y a des cas, des exemples comme ça, des exemples, attends, on sait que tel a été, par exemple, sanctionné, révoqué du service pour corruption et conscience, je pense qu'il y aura, ça va interpeller tout le monde et nous reviendrons à la raison. Et nous allons lutter efficacement contre la corruption dans la législation publique. Voilà un peu, à mon sens, ce que j'avais à dire quant au sujet du GE.
Merci beaucoup, Germain. Vous êtes à Boutembo. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Et bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
La préoccupation concernant notre sujet, c'est savoir comment lutter contre la corruption dans l'administration publique. Les auditeurs doivent savoir que la corruption va de pair avec l'impunité. Pour dire que, pour bien lutter réellement contre la corruption, nous devons aussi lutter contre l'impunité. Les autorités ou les dirigeants doivent mettre tout en place pour punir les gens victimes de la corruption et à part l'amélioration, disons l'impunité, nous sommes appelés à l'amélioration des conditions de vie. Il y a quelque part où on va faire les recherches, surtout à la mairie. La mairie, vous avez les agents qui ne touchent presque rien, et quand vous venez faire des recherches, vous devez les motiver afin de trouver peut-être les éléments que vous avez besoin. Mais quand il n'est pas peut-être motivé, il n'aura pas même la force peut-être de bien travailler et de chercher tous les éléments dont vous avez besoin. Et là, nous disons que peut-être pour lutter réellement contre la corruption, il faut d'abord l'impunité, lutter contre l'impunité et l'amélioration des conditions des agents de la carrière peut-être publique.
D'accord, merci Germain. On a compris votre... Merci pour votre intervention. On va accueillir Dieu Merci de Dungu. Bonjour.
Bonjour, bonjour à Radio Kati, bonjour monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation, Dieu merci?
Quelle est votre préoccupation, Dieu merci? Moi, ma préoccupation, je voudrais vous présenter. Moi, je suis pasteur.
Veuillez diminuer le volume de votre radio, de votre poste récepteur. Vous allez suivre à partir de votre téléphone, Dieu merci. C'est fait?
Ok, merci beaucoup. Merci. Je voudrais souligner quelques points par rapport à tout ce que les gens vous disent. Ma préoccupation, c'est quoi? On va lire 2 Corinthiens chapitre 19, verset 5, qui nous dit ceci. Pour la correction, maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car rien chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes. L'acceptation des présidents. Notre Congo a beaucoup de corruption. Pourquoi? Ça, c'est la question que je dois poser. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Merci bien. Platini Mbombo de Mbandaka, bonjour.
Je dis de nous, Katsama, bonjour. Bonjour à l'invité, bonjour à tout le monde.
Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup, Jeudi, pour m'avoir associé dans ce débat. La thématique d'aujourd'hui est très intéressante quand on parle de la corruption dans la dimension publique de l'État. Je voudrais quand même souligner quelques préoccupations par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Vous savez, la corruption, on ne peut pas limiter, soit terminer la corruption à un seul jour. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se font sur le terrain. Il y a aussi question de la moralité, parce que quand quelqu'un qui ne paye, on ne paye pas très bien, quelqu'un est très mal payé, tout ça, raison pour laquelle il va toujours chercher à chercher comment il peut être toujours corrompu. Et aussi, nous, on voit la corruption, ça termine même pas au niveau de la chef de division, au niveau de la secrétaire générale, même les gouverneurs de province, on est corrompu aussi. Et aussi, il y a aussi les problèmes des conditions de vie sociale de la population. Parce qu'un chef de division, il a au moins 5 à 10 enfants, et par mois, on le paye au moins de 100 dollars, Maintenant, si quelqu'un lui amène 200 à 300 dollars pour le corrompre, il va accepter facilement parce que les conditions de vie n'est pas bonne.
Et aussi, alors, vous dites que... Oui, Platini. Politique. Oui, ah, vous Platini. Savez, Platini, vous dites que même les gouverneurs sont corrompus. Est-ce que c'est lié aussi aux conditions de vie?
Si vous êtes dans un poste de la République de l'État, et si un autre gouverneur arrive, comme vous êtes là, vous allez faire toujours l'effort de arracher un peu, je fais rapidement pour chercher l'argent, parce que si un autre gouverneur arrive, on va me faire partie, tout ça. Donc, c'est ça que moi je veux quand même ajouter. Il y a aussi ce qu'on appelle l'instabilité politique. Et pour laquelle, moi je souhaiterais que ceux qui connaissent très bien, ce qui fonctionne déjà, même une autre politique CVM, laisse toujours continuer avec lui. Je crois que la correction a fait quand même cette limite petit à petit. Mais si on change à tout moment, quand on change, vous voyez que la correction va toujours s'augmenter parce que l'instabilité politique nous tue, parce que nous sommes aussi gérés par la politique. Voilà ce que je voulais quand même continuer dans cette émission.
Bien, Claude Mayombo nous a écrit sur Facebook, il dit la corruption est devenue une épidémie. Depuis Mobutu Sese Seko jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Donc la corruption devient une épidémie qu'il faut lutter efficacement contre cela dans l'administration publique. C'est plus que même l'épidémie d'Ebola. Claude Mayombo depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Professeur, vous avez suivi toutes ces interventions. Certains disent que c'est lié aux conditions de vie, les salaires modiques. D'autres disent que c'est parce qu'il y a l'impunité, la justice ne fait pas son travail. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sujets?
Mais je suis d'accord avec les analyses. Mais nous disons que la question actuelle, comment lutter? Nous disons, première chose, il faut qu'il y ait la volonté
politique.
Un exemple.
Jusque là, on n'a pas encore, il n'y a pas encore de volonté politique.
Aujourd'hui, oui. Quand nous entendons dire le chef de l'État.
On entend un message clair
par rapport à cela. Voilà, partout il dit luttons contre les antivaleurs, changement de comportement, changement de mentalité. Ça au moins c'est clair.
Lutte contre la corruption.
Voilà. Et lui-même, on a sur l'exemple qu'il a donné, il restitue de l'argent qui vient après sa mission. C'est-à-dire un symbole important. Donc là, nous sentons la volonté qui est là. Mais il faut aller jusqu'au bout de cette volonté. Être modèle. Il faut des références. Première chose. Donc avoir la volonté de tout décideur. Non, on a proposé de tenter de chemin. Mais d'abord, il faut que tout décideur, à partir du chef de bureau, connaît la volonté de changement, la volonté d'aller vers les valeurs. De la base au sommet. Tout décideur. Ensuite, cette volonté-là, nous disons, mais nous avons les statuts des fonctionnaires. Qu'on applique strictement les statuts des fonctionnaires. Si ces statuts sont appliqués. Mais ça là, c'est là où il y a des primes, des avantages, des rémunérations. Tout est là-dedans. C'est la référence absolue. Si un pouvoir s'investit d'abord, sans commenter, appliquer les avantages liés au statut des agents, première chose, ils seront motivés. C'est la première référence. La troisième stratégie. Mais il faut former les décideurs en éthique. L'éthique est la science destinée aux décideurs pour changer de comportement. Pourquoi? Mais parce que grâce à l'éthique, on va instaurer en eux l'esprit critique. Ne fût-ce que remettre en question tout ce que nous faisons-là. Tout ce qu'on dit, toutes ces plaintes que nous recevons. Mais qui les met en question? Quelle est la structure où on s'assoit pour dire, mais comment mettre fin à l'impunité? Mais pourquoi on ne sanctionne pas? Mais pourquoi on est dans les inégalités? Pourquoi l'injustice? Il n'y a pas une instance qui ramasse tout ça pour dire ce qu'il faut faire. Et nous avons dit, pour cela, il faut une structure au niveau de la Première République qui va s'occuper de ces questions-là. À part la fonction en éthique, la formation en éthique, c'est massivement pour le décideur. Mais il faut aller dans les écoles primaires, secondaires, dans les universités, où ces fléaux commencent déjà là, dans nos familles, partout. Mais imaginez-vous, mais la corruption est une conséquence de plusieurs antivaleurs secondaires. De tout comme quelqu'un dit, c'est une épidémie. Et nous avons proposé, nous, la mise en place d'un programme de lutte contre les antivaleurs.
Il y a
justement des programmes de lutte en domaine de la santé.
Mais est-ce qu'il n'y a jamais eu de programme comme ça de lutte contre
l'antivaleur?
Tolérance zéro, il y a eu beaucoup de programmes par rapport à cela.
Et très bien, vous avez raison. Et qu'est-ce qui a manqué? La volonté politique. Pourquoi la volonté politique a manqué? C'est pas les décideurs eux-mêmes sont dans les systèmes, dans les pillages. Comment voulez-vous qu'un ministre qui vole va sanctionner un agent qui vole? Mais ça n'a pas de sens, vous n'entendez pas. Parce qu'ils sont dans des réseaux, on parle d'un système. C'est un système dans notre pays.
Donc organisé. Il y a maintenant des réseaux organisés de corruption.
Mais oui. On ne connaît pas les chefs de l'État dans les régimes passés, pas tout ailleurs, mais c'est un système solide et qui se maintient encore aujourd'hui, même quand on dit mais il y a un mauvais système, il y a des antivaleurs. Mais on peut même les répéter en termes de chapelet, si vous voulez. Mais où voyez-vous l'instance qui dit arrêtons, examinons, que faut-il faire?
Mais certains ont proposé que c'est parce qu'il y a eu l'impunité, il n'y a pas eu des sanctions, et ben voilà, les gens vont continuer à recourir à la corruption.
Ils ont raison.
Parce qu'on ne sera pas sanctionné.
Mais l'impunité, c'est une antivaleur, justement. C'est une antivaleur.
L'impunité.
Ah, mais oui. Être incapable d'annoncer une sanction par rapport à un acte qui ne répond pas à la valeur de cet acte-là. Dès que vous ne le faites pas. Mais c'est une antivaleur. Parce que la valeur, c'est la sanction. Sanction positive et sanction négative. Vous comprenez? Mais pourquoi il y a impunité? Juste parce que ceux qui doivent sanctionner sont justement, si vous voulez, les gestionnaires même. Et des ordres.
Alors, à ce moment-là, ils ne pourront pas sanctionner.
Impossible.
Parce qu'eux-mêmes sont impliqués.
Mais oui. Et ce qui est là pour notre pays, c'est l'absence même de la honte. Voyez, de l'angoisse, de l'inquiétude qui sont des sanctions éthiques, mais qu'on ne va pas auprès de tous ces décideurs.
Mais il y a un moment dans l'administration publique, on payait même des fictifs. Il y avait sur les listings de paye, des agents qui sont déjà décédés, mais il y a certaines personnes quelque part qui continuent à percevoir là.
Mais regardez, c'est encore très grave. Maintenant, il n'y a pas longtemps, au niveau du ministère de la Santé publique, les inspecteurs ont dénoncé, et nous avons tous suivi, l'existence de 28 000 agents fictifs. Il dit fictif.
Qui sont payés régulièrement.
Qui sont payés régulièrement. Mais que c'est ma famille là. On n'en parle même plus.
28 000.
28 000. C'est connu, c'est chiffré. Mais maintenant, au lieu que les décideurs, quand ils décideurs, les chefs de l'État, les ministres en matière, même les parlements, interpeller tous les ministres qui sont passés à la santé pour qu'on se dise, mais comment vous avez-vous accepté les 28 000 agents fictifs? Cet agent allait où? Qui peut s'en occuper? Mais c'est on n'en parle même plus. Alors que moi, par exemple, si présent, j'ai mis en place le comité national d'éthique de la santé en appliquant l'arrêté ministériel pour mettre à terme les antivaleurs dans le milieu de la santé. J'ai formé les gens, mais on n'est jamais rémunéré. Et on est même dans le vitesse de l'État. Jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas justement des structures qui luttent contre des antivaleurs.
D'accord. On va accueillir Jérémy de Nimbashi et Kachai de Kanyoka. Jérémy, bonjour.
Bonjour Monsieur Jordi, et bonjour également à l'invité avec vous sur le plateau. Et merci pour ce sujet important, parce que nous savons bien que parmi les mots qui gangrènent et les antivaleurs qui gangrènent notre pays figurent les fameux dossiers de corruption qui semblent rester comme une chanson monotone jusqu'à quand nous allons commencer à entonner cette chanson qui va prendre fin, on ne sait pas. Quand Jésus-Christ reviendra, ça ne va pas dans notre pays, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir, surtout dans la fonction publique, où il y a une récréation totale qui ne semble pas dire son nom, où tout le monde fait ce qu'il veut. Vous n'avez qu'à voir d'abord, même dans les secteurs de l'éducation, ce qui se passe avec les histoires des examens d'État. Combien on monnaie, voilà. Combien on décharge sur les finalistes qui souffrent vraiment faim et haut pour pouvoir ne plus que décrocher les petits diplômes. Ça, c'est un fait. Vous n'avez qu'à voir même dans d'autres secteurs de l'État. Un fonctionnaire de l'État, il est payé par exemple 100 $ ou je ne sais pas, 80 000 francs. Mais il est véhiculé, il a beaucoup de biens, je ne sais pas. Ce sont des biens qu'il a acquis d'une manière malhonnête et frauduleuse, on ne sait pas. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on installe un ministère de corruption pour que les choses semblent bien tourner.
Parce que tout un ministère, consacré à la corruption. Donc, vous proposez qu'on installe tout un ministère consacré à la lutte contre la corruption.
Mais parce que jusque-là, on a mis un conseiller au niveau de la présidence, mais c'est la chanson monotone continue et ça ne va pas. Ou il faut un ministre qui exécute alors la loi et donc introduite par les parlements pour que l'exécution soit effective. Vous n'avez qu'à voir même. Moi, je pense qu'il y a même tous ces gens-là qui se disent secrétaires généraux-là qui restent toujours en permanence. Les ministères partent et restent. Ce sont ceux-là qui sont à la base de tous ces mouvements qui semblent gangréner un peu notre pays. Parce qu'il faut après tout qu'on mette des toilettages dans ce secteur pour que les choses marchent. jusqu'à quand notre pays va se porter à merveille sur le plan corruption.
Merci.
Ça commence du plus haut et voilà. Jusqu'au plus bas.
D'accord. Alors, merci Jérémy qui propose qu'on puisse créer un ministère, tout un ministère, consacré à la lutte contre la corruption. Kachai, vous êtes à Kanyoka, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody et bonjour à l'invité du jour.
Quelle est votre bonjour. Question par rapport à la lutte contre la corruption dans l'administration publique?
Merci beaucoup Jody. Je m'en vais vous dire que la corruption, considérée comme une infraction au même titre que toutes les autres infractions, est devenue une institution en désuétude dans notre pays. Parce que le juge ou soit l'officier du ministère public ne peut se contenter de poursuivre quelqu'un parce qu'il a tué, parce qu'il a menti, parce qu'il a volé, parce qu'il a commis d'autres choses, dénonciation, calomnie, ainsi de suite. Mais pour poursuivre quelqu'un parce qu'il a corrompu, parce qu'il est corrompu, on ne poursuit pas, on tolère, il faudrait qu'il y ait toujours des plaintes, que les organismes, les ONG se plaignent par rapport à la corruption dans notre pays. Au mois de novembre de 2018 passé, le ministre national de la fonction publique avait pris un arrêté attribuant à quelques gens les numéros matricules. Monsieur Jody, dans cette province du Kasaï central, 27 000 matricules étaient attribués je ne sais pas comment je vais les appeler parce qu'ils ne sont pas encore des fonctionnaires jusqu'alors. Alors, ces gens-là, lorsqu'ils sont partis aux différentes divisions pour des formalités administratives, il y a eu des complications. D'abord, les chefs de division ne leur permettaient pas d'accéder à ces numéros. Les chefs demandaient à leurs membres, à leurs connaissances et amis, de faire des cartes, des nouvelles cartes d'électeurs au nom de ceux qui sont sur les listes et qui ont même des numéros, pourvu que lorsqu'il y aura des contrôles, même si ce n'est pas les numéros attribués au nom des Kachai, alors on peut donner ces numéros-là à quelqu'un d'autre parce qu'il a la carte d'électeur. Voyez ce que ça fait dans notre administration publique. Deuxièmement, la corruption bat son plein dans le minéré. Lorsque les étrangers viennent, parce que la RDC est classée à la place 165e,
oui. Place, rapidement, Kachai.
165e, oui. Dans le monde pour la corruption. Mais les gens qui parlent de cette corruption-là viennent nous corrompre ici. Ils donnent l'argent à ceux qui assument de grandes fonctions. Ces gens-là acceptent et ils favorisent des choses qui ne peuvent pas être favorisées. Et nos populations, nous sommes devenues des victimes consentantes, incapables de dénoncer le mal dont nous sommes, nous, les premières victimes. C'est ainsi que je voulais demander à l'invité. Nous avons tant parlé de la corruption. Le président Kabila avait même un conseiller chargé de la corruption pour lutter contre la corruption. Faut-il insérer dans les cours au niveau primaire? Parce qu'avec les générations actuelles, ça ne va pas, ils ne vont pas cesser. Avec les salaires modiques qu'ils touchent, ils ne vont pas cesser. Faut-il introduire au secondaire ou soit au primaire les cours d'éducation, d'éducation contre la corruption pour permettre aux nouveaux enfants qui vont venir de ne pas tabler sur la corruption dans tout ce qu'ils font comme activité administrative.
D'accord. Merci. Faut-il insérer un cours comme ça à l'école primaire et secondaire pour un cours d'éthique peut-être?
Mais oui.
Professeur, un instant, on va accueillir Salomon de Kinshasa et Bodiko des Zongo et puis je reviens à vous. Salomon, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quelle est votre préoccupation?
Je pense que je pourrais plutôt faire une contribution. Je suis un ancien élève de l'École nationale d'administration, aujourd'hui agent de l'État. Je suis vraiment intéressé par cette problématique de la corruption. Alors, en contribuant dans ce débat, je pense que le professeur a été très clair, mais je voudrais ajouter quelque chose, parce que la corruption actuellement au Congo, c'est un réceptacle, un fourre-tout qui reprend plusieurs réalités. Il y a la corruption proprement dite, donc avoir certains avantages induits par le paiement de quelques billets de banque. Il y a aussi la concussion, c'est ce qui est fréquent dans l'administration publique. Donc certains services qui sont de par nature à titre gratuit sont monnayés par les agents de l'État. C'est vraiment la forme la plus courante de la corruption au sein l'administration publique actuellement au Congo. Alors, en termes de causes, j'ai pu me rendre compte qu'il y a la propriété des agents, la rémunération, elle est très modique. Alors, ça fait que ça puisse légitimer quelque peu la corruption dans le mental des agents de l'État. Et aussi, la société, hein, notre société congolaise, c'est une société qui n'est pas vraiment très hostile à la corruption. Elle n'est que dans les propos, mais dans les faits, il n'y a pas vraiment de moyens contraignants. Enfin, je n'ai jamais vu, depuis que je suis là, une certaine manifestation publique où les gens dénoncent clairement une forme de corruption, sauf si je n'ai pas toutes les informations avec moi. Mais aussi, je pense que pour lutter contre la corruption, il faudra, d'une part, renforcer les moyens de l'OSCEP. Il y a un observatoire de lutte contre la corruption et de la bonne gouvernance promeut la bonne gouvernance et lutte contre la corruption, qui est au sein de la fonction publique. Renforcer les moyens d'action de cet organisme qui est chapeauté par le professeur Mundambani, je crois que c'est un organisme qui a beaucoup d'éléments, beaucoup d'outils qui peuvent servir à lutter contre la corruption. Si on renforce les moyens de cet organisme, on peut arriver à lutter contre la corruption efficacement. Mais aussi, je pense qu'il faudra aussi, d'une certaine mesure, créer des chambres spécialisées hein, dans les juridictions au Congo, les tribunaux, créer des chambres spécialisées dans toutes les juridictions qui doivent prendre en charge judiciairement les questions des dénonciations de corruption.
Donc, d'accord. Merci Salomon de Kinshasa. Bodiko, vous êtes à Zongo. Bonjour.
Bonjour Jody. Bonjour aussi à l'invité.
Comment lutter efficacement contre la corruption dans l'administration publique? Quelle est votre préoccupation?
Merci Jody. Kachama, pour m'avoir accordé la parole. Je pense que ce que je voulais dire, les amis ont tout dit, mais je vais quand même ajouter quelque chose. La grande question aujourd'hui par rapport à la corruption dans notre pays, c'est de se poser la question, le pourquoi de cet acte, le pourquoi. C'est-à-dire, si aujourd'hui nous constatons que la corruption bat record, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas passer des jours sans parler de la corruption dans notre pays, oui, le pourquoi de ces phénomènes. Le phénomène est dû notamment à beaucoup de choses dont je vais énumérer quelques-uns. Par exemple, les agents de l'État qui ne sont pas bien payés et qu'il y a un système qui s'appelle Madé Swabana, communément appelé, c'est-à-dire les haricots des enfants. Donc, il voit qu'il est mal payé, il ne peut pas scolariser ses enfants avec le salaire qu'il a, donc pour recourir scolariser ses enfants ou faire manger ses enfants, il doit passer par la corruption. Et là aussi, il y a aussi un problème par rapport à notre pouvoir judiciaire. Pourquoi? Parce que la corruption, conformément à la loi, est punissable. Celui qui fait la corruption et celui qui est corrompu, tous sont punissables. Mais nous avons vu ici l'ICOCO, une structure qui s'occupe de cela.
La lutte contre la corruption. Oui.
La lutte contre la corruption fait des dénonciations, mais jusque-là, nous ne voyons pas
les résultats.
Maintenant, pour pallier à ça, je pense que nous tous, nous avons espéré au changement. L'actuel chef de l'État a promis de régler les problèmes d'Ati Valère. Nous espérons qu'au fur et à mesure, ce n'est pas un travail qui va faire seul. C'est un travail de manque que nous le faisons ensemble avec nous. Avec conscience, en créant une institution de vérification et d'audit par rapport à ces phénomènes-là.
D'accord, voilà, merci. Merci Bodiko Zakari. Sur Facebook, la plupart des interventions, Dieu merci, Chamala, Vianney, et puis Paulin et d'autres reviennent sur le salaire modique. Il faut d'abord améliorer les salaires des fonctionnaires et d'après eux, ça les mettra à l'abri de la corruption, professeur.
Oui, merci beaucoup. Toutes ces interventions sont très positives et très très constructives en même temps. Je ne suis pas d'accord avec ces éléments qu'on évoque. Ça, ce sont des conséquences. Mais pourquoi? Le Bénin il ne cite pas dans le pays. Il y a des semaines, je suis dans un pays africain. À l'aéroport, on contrôle, bien sûr, chaque fois quand les gens voyagent, le passeport et les billets. On constate qu'une Congolaise avait son passeport en bonne forme, mais les billets qu'il avait ne correspondaient pas à son nom. La dame qui était là, un agent de ses services, a appelé vite la police, dit, écoutez, cette maman-là a des problèmes. Et les Congolais qui étaient là tous, on s'est intéressés par solidarité. Le policier nous dit, s'il vous plaît, ces dames, conformément à nos lois, retournent au Bénin parce qu'il doit acheter ces billets-là au Bénin. Ça, ce n'est pas son billet. Ça ne vaut pas la peine d'être autour de moi, rentrer, mais elle retourne. Est-ce qu'un policier de cette pays croit qu'elle elle a des millions? Non. Donc, les problèmes comme ces problèmes d'éducation, de formation, je pose la question. Où voyez-vous et dans quelle structure voyez-vous conforme des Congolais à des comportements d'honnêteté, d'intégrité, de respect des biens publics, des biens communs? On le fait nulle part.
Il n'y a pas de cours d'éducation civique.
Mais justement, mais tous ces cours n'existent même plus. Et quand ils existent, le contenu n'est pas correct. Vous allez dire, mais vous, comme professeur d'éthique, qu'avez-vous fait? Mais toujours, nous proposons nos offres. Et à l'enseignement primaire secondaire, nous avons été à la série initiation à la nouvelle citoyenneté. Nous avons proposé des modules de cours, de maternelle jusqu'au secondaire. Comment intégrer dans l'esprit de l'enfant la notion de responsabilité, de liberté, d'autonomie et des tas d'autres valeurs. Mais on n'a jamais été convoqué ni appelé. Et je vous rappelle que maintenant, c'est la même chose que nous constatons. Nous dénonçons ça maintenant. Parce que nous savons sur les tableaux de courrier. Nous avons proposé, dès que le chouteur a dit lutte contre les antivaleurs, nous avons dit que faut-il faire pour amorcer la lutte. Mais nous ne sommes pas dans le programme de 100 jours ici. Alors qu'on a dit, c'est la priorité des priorités. Effectivement, pour que tout marche, même l'argent qu'on va débloquer pour les 100 jours ici. Mais si ces gens ne sont pas formés à l'éthique, mais peuvent encore détourner ces fonds-là. Vous comprenez? Donc, nous offrons, nous disons, ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est quoi? Nous avons d'abord les statuts de l'administration publique. Partout, l'État, c'est d'abord les fonctionnaires, c'est l'administration. Qu'on applique les statuts. Et à ce moment-là, on verra que ça va marcher. Pourquoi ça va marcher? Mais parce que si l'agent qui verse l'argent dans la caisse de l'État, à la fin du mois, il est payé parce que cet argent collecté, c'est ça sa rémunération. Et il jouit de tous ses privilèges conformément au statut, je répète encore une fois, conformément au statut des agents des services publics. Cela existe, mais on ne veut pas l'appliquer. Vous voulez voir quelle référence? Quelle référence vous voulez avoir? On peut se plaindre autant de fois quand on dit, que faut-il faire aujourd'hui? Il y a un ami qui a proposé la question des ministères. Moi, j'ai parlé tout à l'heure là, d'un programme. Mais qu'est-ce qu'on veut dire? Il faut une structure qui prend en charge tous ces questionnements pour être capable de sanctionner d'abord les décideurs au sommet. Comment voulez-vous...
Mais pourquoi ne pas seulement renforcer la justice au lieu de créer encore d'autres structures? Mais c'est à la justice de pouvoir
bien
les sévir.
Très bien. Parce que justement, que nous proposons, nous, pour ne pas les structures, nous disons que dans le monde entier, il y a des conflits de valeurs. Et quand il y a des conflits de valeurs, il y a des dimensions pour pouvoir y apporter des solutions. Il y a la dimension que vous évoquez de la justice, c'est vrai, mais il y a aussi la dimension de la moralisation et la dimension éthique qui s'occupe des consciences, qui s'occupe de l'esprit des personnes. Donc, l'homme n'a pas que droit à justice, c'est vrai, mais aussi, il faut travailler sur son cœur, sur son esprit. Parce que, nous, comme exemple, il y a la mauvaise foi. Comment veux-tu qu'un ministre qui a déjà de bons salaires puisse organiser le système de pillage encore? Il n'est pas
nous, le système de 40%. Voilà. Vous venez avec un dossier, vous êtes investisseur.
Voilà.
Bon, d'abord, donnez-moi mes 40%.
Mais c'est ça. Avant, c'est un ministre mal éduqué, mal formé.
Avant de signer les documents.
Exactement ça. Quand il y a éducation, c'est au sens premier et terme. Hein. C'est-à-dire que ces gens n'ont jamais eu de cours d'éthique. Jamais eu. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'une valeur. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'un bien commun. Et s'ils le savent, alors, ils sont marqués par la mauvaise foi. Vous voyez, je peux la question savoir. Mais allez dans nos universités aujourd'hui. Où voyez-vous l'étudiant être discipliné à prendre l'effort, le sacrifice?
C'est la corruption systématique.
Systématique. Alors, comment vous savez, monsieur, dans la vie pratique, vous respectez les normes, les principes éthiques? Ça n'existe pas. Donc, la majorité des Congolais, les décideurs, je veux dire, n'ont pas les notions. S'ils en ont, vous voyez que ce sont des personnes de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'ils commettent des fautes, ils font le mal volontairement pour nuire aux autres.
Alors pour combattre la corruption à la base, il faut d'abord introduire un cours de civisme ou des luttes, un chapitre, tout un chapitre sur la lutte contre la corruption dans les écoles.
Nous avons proposé plusieurs modules et nous avons des compétences à l'école primaire, secondaire, partout il y en a. Mais cela se pose le problème à ce milieu-là. Et un exemple simple, regardez, examen d'État aujourd'hui. Pour vous comprendre que le préfet en charge
d'accompagner nos enfants pour les meilleurs résultats, ce sont ceux-là même en complicité avec les inspecteurs qui rassemblent les enseignants dans les salles de classe en fonction des examens programmés pour que les enseignants répondent aux questions à l'appel des élèves. Et les inspecteurs impliqués qui devaient pousser à la rigueur sont ceux-là même qui demandent qu'on leur donne de couverture humaine pour parler des nuits afin de ne pas sanctionner. Où voyez-vous les modèles à ce moment-là? Vous comprenez? Donc le mal.
Ça se passe lors des examens.
Mais c'est pour moi, j'ai l'intérieur, j'ai vérifié ça, j'ai vécu des choses incroyables. Mais qui va sanctionner? Où voyez-vous les sanctions? C'est pourquoi nous disons, aujourd'hui, comme il y a une volonté politique d'après les discours que nous suivons, de lutter contre les antivaleurs, c'est le moment de mettre des structures, de former les gens. Nous avons proposé dans notre document qu'on organise dans tout service des débats éthiques. Que les agents, là où ils sont, discutent, échangent, prennent des décisions, dénoncent même les intéressés, qu'on affiche. En affichant, la justice peut intervenir. Des permutations, des révocations peuvent tomber parce que c'est dans chaque service où on va se mettre en question pour le bon. Parce que l'éthique est une science qui vise les biens, le bien-être.
Et on a suivi le chef de l'État, a dit qu'on a besoin des gens intègres. Mais c'est qui une personne intègre? C'est quelqu'un qui n'est pas trompé dans la corruption.
Mais la référence est simple. Mais nous avons des textes légaux. Un homme intègre, c'est la personne d'abord qui respecte les lois de son pays, qui remplit son devoir conformément à ce qu'on attend de lui dans son pays. Il faut avoir des références et ce sont les textes légaux. Mais regardez pas. Mais qui les applique? Qui les applique? Aussi longtemps qu'on ne va pas appliquer nos propres textes qui sont intéressants, dynamiques, on ne fera rien. Mais ensuite, il faut une formation dans une dimension humaine. Tous à la base, qu'est-ce que signifie être humain? Ils me demandent bien, ils sont des étudiants, est-ce que le Congolais sommes des humains? Est-ce que tous à la base vraiment? Parce que si nous acceptons, c'est ce qui n'est jamais accepté dans d'autres mondes, même auprès des intellectuels, des contradictions aberrantes que nous acceptons.
Quelqu'un a proposé qu'on crée tout un ministère chargé de la lutte contre la corruption.
Mais oui, nous avons le modèle, regardez. Moi, il ne faut pas inventer la roue. Regardez le modèle qu'on a mis en place dans notre pays pour lutter contre le VIH/SIDA. C'est un programme national. Et on s'engage pour 5 ans, pour 10 ans pour s'en sortir. C'est là-dedans qu'on doit élaborer des livres, des manuels d'enseignement. C'est là où on va former les enseignants. C'est là où on va former les inspecteurs pour qu'ils puissent avoir des concepts, des termes. Je donne un exemple. Où voyez-vous enseigner, apprendre un Congolais, par exemple, la liberté? Être libre, être autonome, savoir respecter les biens communs, les biens publics. Mais où voyez-vous les sanctions tomber? Mais nulle part. Donc, on a une société récréative. Et comme conséquence, on ne nous prend jamais au sérieux à l'extérieur. Moi, ici, le monde entier. Mais c'est que nous sommes comme Congolais, on se moque de nous partout. Mais pourquoi? Pas nous manquons simplement l'humanité. Donc, on n'est pas des personnes à classer parmi les humains, en réalité. Et on ne l'est pas. On ne l'est pas. Et pourquoi on ne l'est pas? Mais on ne remplit pas les critères élémentaires de l'être, d'être un homme simplement. La capacité de réflexion est faible. La capacité de volonté est faible. La motivation de la décision est presque nulle. La responsabilité est inconcevable ici.
Mais quelqu'un a proposé tout à l'heure qu'il y a même une structure au niveau de l'administration publique qui est chargée de lutter contre la corruption et d'autres antivaleurs, mais la structure n'a pas assez de moyens.
Mais si vous avez raison, je connais les collègues qui y travaillent.
Le professeur Mwendamba.
Mais il a à peine 48 agents. Est-ce qu'on peut mettre sur place un système de lutte contre la corruption avec 48 agents et qui sont même pas, qui sont rémunérés difficilement? Mais dans notre pays, on n'aime pas, je répète, on n'aime pas les structures qui s'engagent pour humaniser notre propre vie. Mais je donne un exemple précis. Mais moi, j'ai mis en place un arrêté ministériel créant le Comité national d'éthique de la santé, un arrêté de 2006. Moi, je me suis investi avec le secrétaire général de l'époque, M. Mokeng Chahi, en 2013, pour le mettre en place. Nous avons formé les gens partout. Aujourd'hui, mais on est même rejeté, repoussé, on ne veut pas entendre parler de ça, demander au ministère de la Santé publique, on connaît le dossier. Mais qui s'en occupe? Parce que nous voulons dénoncer, rendre les milieux hospitaliers humains. Et c'est comme ça que les collègues travaillent à la fonction publique.
Donc, vous dites que beaucoup de gens sont revenus sur l'amélioration des conditions salariales. Vous dites que ça,
c'est une conséquence.
Ce n'est pas à la base de la corruption.
Non,
c'est pas une raison pour justifier la corruption.
Non. Ce n'est pas une raison valable. Parce que c'est comme dit qu'il dit que, bon, écoutez, quand tu as faim, tu dois manger. Non. Je ne vais pas avoir faim, je suis de manger. C'est ça, justement. C'est ça être homme. J'ai faim, la nourriture est là, je ne mange pas. C'est possible, non?
Parce qu'elle ne m'appartient pas.
Voilà. Mais quelqu'un, quand il dit, bah, écoutez, moi j'ai faim de manger, vite, il doit manger. Mais non. Alors maintenant, un collègue, celui qui a parlé, a donné un exemple simple. Mais alors, les ministres ont-ils des salaires maigres dans notre pays?
Non.
Alors, comment
dire? Mais ils sont trempés dans la corruption.
Voilà. Donc, la clé de l'affaire, c'est un problème de manque d'éducation et de mauvaise foi.
Et un problème d'éthique.
D'éthique fondamentale. Nous avons proposé des formations dans deux ans, trois ans, des formations en éthique voilà. Pour sauver notre pays.
Pour sauver notre pays, vous avez dit qu'il faut qu'il y ait d'abord une volonté, voilà. La volonté politique. Il faut former les cadres.
Tous les décideurs. Pas des chefs de bureau, un peu plus haut.
Tous. Et puis un cours au niveau du secondaire, de l'école primaire peut-être.
De l'université partout.
Partout.
Mais à l'université, regardez bien, quand il y a des concepts ridicules, qui gêne beaucoup, mais qu'on entend point socialement transmissible,
oui.
Ou bien point financièrement mérité.
Ou les enfants d'abord, il y a beaucoup de concepts.
Ce sont des concepts liés à la pauvreté éthique, justement.
Merci, professeur Félicien Mondel. Je rappelle que vous enseignez l'éthique et la bioéthique. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci beaucoup, monsieur. Merci.